Bonjour, Marco Compte à rebours. Compte à rebours des histoires, des contes, des légendes. Et aujourd'hui, comme une des précédentes émissions, une histoire extraite du livre de Bernard Clavel, dans le livre de poche, Légende du Léman. Le lac Léman. On va partir sur le lac Léman. Il y a encore des histoires de bateaux. Et oui, c'est comme une petite mer. On embarque tout de suite sur le Léman pour les trois îles. Le seigneur de Salagnon ne régnait pas uniquement sur Clarence. À force de guerre, il était arrivé à dominer une bonne partie des terres du Léman, à peu près toute la rive nord, de Villeneuve à Pringet. C'était un homme trapu, au visage carré. Son regard noir, au reflet d'acier, vous glaçait le sang. Il possédait trois demeures, une sur l'île de Salagnon, une sur l'île de Ré et la troisième sur l'île de la Harpe. Ces trois châteaux forts avaient été construits par le même architecte, exactement sur le même modèle. La décoration était partout la même, les armes du seigneur. Un blason orné d'une tour, d'une barque, d'un épi de blé et d'une épée. Toute la puissance et la richesse du maître. On retrouvait ses armoiries partout. Dans la pierre des cheminées, dans chaque linteau, dans le bois des portes et des coffres, dans le fer des grilles. Des tailleurs de pierre, des charpentiers, des forgerons avaient payé de leur vie une erreur de rien du tout dans le trait de ce blason. Chez le seigneur de Salagnon, on ne pendait pas. Les condamnés étaient enchaînés, bastonnés et fouettés jusqu'au sang, puis jetés du haut d'une tour dans les eaux du Léman. À cette époque, tous les coteaux du Laveau et de la côte avaient été défrichés et mis en culture sur son ordre. On semait uniquement du blé, de l'avoine et de l'orge. Une grande partie était vendue très cher aux gens de la rive sud, dont les terres plus froides se prêtaient mal aux cultures. Ainsi, le seigneur régnait-il sur tout un peuple de paysans, navigateurs, pêcheurs, charpentiers de marine, forgerons de charrues, constructeurs, sans compter les mille et un métiers dont la vie ne saurait se passer. Le seigneur avait son armée, nourri grassement par les paysans et sa marine de guerre qu'il renforçait chaque année dans l'espoir de conquérir encore d'autres contrées. Tout allait donc fort bien pour ce célibataire endurci chez qui défilaient d'innombrables femmes de mauvaise vie. Tout allait bien lorsque vint une année de sécheresse. Au mois de mai, le ciel se mit à flamber. Le miroir du lac multipliait encore la lumière et la chaleur. Il le faisait d'une manière si intense que les plus vieux paysans sentirent dès les débuts quelque chose d'anormal dans le temps. On les entendait parler entre eux à mi-voix lorsqu'ils se rencontraient à l'angle de deux ruelles, de Saint-Saphorin ou du Buzinel. Le lac a pris feu, il brasille. C'est vrai, il grillera les terres. Rien ne poussera. Quelque chose a dû se passer au fond des eaux. La chaleur qui monte du lac chasse les nuées. Il ne pleuvra plus jamais sur nos terres. Dans les premiers temps, les jeunes ne les croyaient guère. Cependant, à mesure que passaient les semaines, l'inquiétude grandissait. Voyant que rien ne levait au creux des sillons, Les intendants commençaient à s'interroger, eux aussi. Ils savaient fort bien que sans vouloir entendre aucune explication, le seigneur de Salagnon les tiendrait pour responsables du désastre. Alors, aidés par les soldats, ils obligèrent les paysans à arroser les champs. Comme les sources étaient déjà à sec, il fallait descendre puiser l'eau au lac. On ne possédait que de lourdes seilles en bois cerclées de fer. Il suffit d'avoir un jour regardé les coteaux pour imaginer ce que pouvait représenter de peine un travail pareil. Plusieurs vieillards essayèrent d'expliquer aux intendants que l'arrosage en plein soleil est très mauvais. Ils ne voulurent rien entendre, ou plus exactement, ils entendirent trop bien. L'intendant général réunit les intendants du détail et leur dit « Puisque les paysans prétendent qu'il n'est pas bon d'arroser au soleil, faites monter de grands bacs en haut des champs la journée. Ils les empliront, la nuit, ils les videront en arrosant. » Et les coteaux donnèrent très vite au pauvre bougre une idée précise de ce que pouvait être l'enfer. Il en mourut des centaines. De longues chaînes se formaient partant du lac pour s'étager jusqu'aux plus hautes parcelles. Les lourdes seilles passaient de main en main. L'eau qui débordait ruisselait un instant avant d'être absorbée par les crevasses du sol dur comme pierre. Tout cela scintillait au soleil comme luisait la sueur sur le visage des paysans. Lorsqu'un de ces hommes tombait, on le remplaçait aussitôt. Bientôt, on dut faire appel aux femmes et aux enfants. Et c'est à peine si ces gens-là mangeaient un quignon de pain dur lorsque le soir tombait, au moment où on leur accordait une courte pause entre la montée de l'eau et l'arrosage. On ignore de qui jaillit la première étincelle. Mais un soir de septembre, alors qu'on s'obstinait à leur faire arroser des terres où il était évident que rien ne pousserait avant le printemps prochain, la révolte éclata. S'armant de fourches et de faux, les paysans commencèrent par tuer les hommes chargés de les garder et dont la surveillance s'était relâchée au fil des mois. Sur le même élan, ils trucidèrent ceux des intendants qu'ils purent retrouver et marchèrent tous sur le château de la Harpe où le seigneur de Salagnon venait de se rendre. Du flanc des coteaux, ils avaient vu passer ces galères. On se demande encore par quel mystère le message courut d'est en ouest pour provoquer un soulèvement si brutal et si général. Lorsque les trois intendants qui avaient pu échapper au massacre arrivèrent dans la salle d'armes du château de la Harpe, ils avaient peine à retrouver leur souffle. Secouez-vous, tonna le maître. Pensez-vous qu'il soit digne d'un intendant de trembler devant des laboureurs ? Seigneur, c'est qu'ils sont des centaines et des centaines. Et ils vont arriver ici. Le maître des lieux bondit de son siège et se dressa sur ses courtes jambes. Son poing noueux empoigna le col du premier intendant qu'il secoua en hurlant « Espèce d'abruti, comment veux-tu qu'ils viennent jusqu'ici ? C'est que vos galériens se sont révoltés aussi. » Le visage du seigneur passa de la brique au marbre. Lâchant l'intendant qui ne tenait plus sur ses longues jambes, il bondit en direction du donjon où il grimpa, entraînant derrière lui la totalité de son état-major. Lorsque le seigneur et sa suite chamarrée débouchèrent sur la plateforme, ils n'eurent guère loisir de contempler le lac où s'allongeait le reflet de la lune à son plein. À la lueur de centaines de torches, les paysans encerclaient déjà le château. Une clameur énorme montait de ses poitrines usées par le labeur. Les visages décharnés et tannés par le soleil luisaient à la clarté dansante. Les regards étaient effrayants. 1000 voix réclamaient du pain, 1000 autres demandaient la mort du tyran. Le seigneur arracha une torche des mains d'un serviteur et la brandit en hurlant. « Écoutez-moi, braves gens, écoutez-moi !» Il dut s'époumoner un bon moment avant d'obtenir le silence. Enfin, les clameurs se turent. L'écho alla se perdre très loin sur les eaux ou dans ses 1000 étoiles. « Écoutez-moi, mes bons amis. Je ne sais qui vous a laissé manquer de nourriture, mais je vous promets que les responsables seront châtiés.
Ils sont à côté de toi, Seigneur. Ce sont tes intendants. »
Le Seigneur fit un geste. Aussitôt, ses gardes empoignèrent les trois intendants qu'ils expédièrent dans le vide, chacun par un créneau. Les trois corps s'écrasèrent sur le pavé à quelques pas des premiers paysans. Aussitôt, une clameur monta. Elle était de joie et de gratitude. Comment un peuple à qui on sacrifie des préleveurs de dîmes ne délirerait-il pas? Lorsque le silence revint, le Seigneur leva les bras en criant « Je vois que vous m'avez compris, mes amis. À présent, je vais vous demander d'entrer tous dans cette grange qui se trouve derrière vous. Un banquet vous sera servi, un banquet comme jamais aucun paysan n'a pu en faire. » La fin de la phrase fut couverte par une clameur plus forte encore que les autres. Déjà, les malheureux se ruaient vers la grange et s'installaient sur la paille et le fouet. Se tournant alors vers son chef des gardes, d'une voix aussi calme que s'il lui demandait qu'on allume du feu dans sa cheminée, le Seigneur ordonna, dès qu'ils seront tous entrés, qu'on ferme les portes et qu'on boute le feu aux quatre coins du bâtiment. Mais déjà, le feu crépitait. Bientôt, des cris, des plaintes, des gémissements montèrent avec la fumée et la lueur des flammes. On entendait des coups sourds contre les lourdes portes de chêne doublées de métal. Les volutes épaisses s'élevaient pour se coucher ensuite sur les eaux du lac où les étoiles et le sentier d'argent de la lune se voilaient. Ils crèveront tous comme des rats. Le Seigneur se réjouissait à tort, car les rats ne crevaient pas. Poussant de petits cris qui ressemblaient un peu aux plaintes des paysans, ils fuyaient par centaines. On les voyait couler des moindres trous comme des souris grises. Ils passaient sous les portes, se glissaient entre le haut des murs et la toiture et, au lieu de plonger dans l'eau pour gagner la côte, ils filaient droit vers le château. Du haut du donjon, le Seigneur ne pouvait voir ce qu'il faisait, mais un bruit étrange lui parvenait. Un bruit qui tenait à la fois du passage d'une scie et du crépitement qu'aurait pu faire une multitude de minuscules burins ciselant les dentelles de pierre. « Descendez voir ce qui se passe !» Le chef des gardes dévala l'escalier, qui remonta bientôt. Son visage était blême, et même la clarté énorme du brasier ne parvenait pas à lui donner des couleurs. « Seigneur, des milliers de rats rongent les murailles. »« Des rats? Les murailles? Mais tu as perdu la tête, as-tu déjà vu des rats ronger de la pierre ?»« Seigneur, ils rongent, et si rien ne les arrête, le château va s'écrouler. » Le Seigneur descendit à son tour, mais lentement, pour bien montrer à sa suite qu'il n'avait pas peur. Personne n'osa le devancer, mais une frousse proportionnelle au grade se lisait sur les visages. En bas, il fallut bien se rendre à l'évidence. Des milliers de rats rongeaient la base des murailles. Certains avaient déjà atteint les salles et s'attaquaient aux murs intérieurs. Des gardes dégainèrent et se précipitèrent pour les tuer. Mais ces rats, aux yeux de braise et aux dents d'acier, étaient si nombreux et ils faisaient preuve d'une telle agilité qu'il était impossible d'en tuer un seul. Les lames s'abattaient sur les dalles et le cri des rats qui leur échappait ressemblait à un rire.
« La porte secrète !»
Laissant les rats à leur besogne, le Seigneur et sa suite filèrent par le passage dérobé et réussirent à embarquer sur une galère. Comme il n'y avait plus de galériens, ce furent les soldats, les généraux et les ministres survivants qui se mirent à souquer. En s'éloignant, ils virent que la grange incendiée s'était écroulée et le Seigneur ne put retenir un ricanement. Les paysans y sont tous restés. L'aube se levait. Lorsqu'ils abordèrent Fourbu et les pommes en sang à l'île de Salagnon. Dès le pont-levis dressé et les portes barrées, ils respirèrent. La lumière qui montait derrière les Alpes piquait ses premiers rayons vers le lac où traînait encore un voile de fumée.
« Qu'on nous serve à boire et à manger !» ordonna le Seigneur. « Nous l'avons bien mérité !» Il venait à peine de se mettre à table qu'un bruit inquiétant se fit entendre.
Tous cessèrent de mastiquer pour mieux écouter. Ils eurent vite fait de comprendre, mais personne n'osait souffler mot.
Toujours en s'efforçant de conserver son calme, le seigneur dit « Ils nous ont suivis. Il faut retourner au bateau et gagner la rive sud. »
Ils se hâtèrent d'embarquer et de pousser au large. Mais cette fois, les rats avaient posté quelques guetteurs sur les roches de l'île. Ils donnèrent l'alerte. Et ce fut une véritable grêle de plongeurs. Une armée innombrable de rats fit force de pattes vers la galère. Les rameurs eurent beau battre le flot de toute leur vigueur. Les rats plongeaient pour éviter les coups et ressortaient au ras de la coque qu'ils se mirent à ronger. En un rien de temps, la lourde galère fut éventrée. Ses occupants essayèrent de nager, mais en vain. Alourdis par leurs bottes et leurs médailles, gênés dans leurs mouvements par leurs armes, soldats, généraux et ministres coulèrent comme des boulets. Seul, le seigneur de Salagnan réussit à s'accrocher un moment à une barque de sauvetage. Dans la confusion, il espérait passer inaperçu, mais les rats s'étaient mis à inspecter scrupuleusement tout ce qui flottait encore. Ils grignotèrent le bois mince de la barque comme un biscuit, et le seigneur coula plus vite encore que les hommes de sa suite, chargé qu'il était d'une grande partie de son or enfoui dans ses poches. Après s'être assuré que nul naufragé ne s'accrochait plus à aucune épave, les rats revinrent au château et achevèrent de le détruire. Une grande fièvre de rongée les poussait davantage encore que leur faim. Pour être bien certain que nul despote ne viendrait plus régner sur le pays, ils terminèrent leur besogne en dévorant également le château de Ré, troisième demeure du seigneur. Le jour se levait lorsqu'ils eurent terminé. Une belle lumière rose ruisselait jusqu'au lac où des milliers de rats nageaient vers le rivage. Ils abordèrent partout, entre Villeneuve et Pranget. Et à mesure qu'ils touchaient terre, ils redevenaient de bons paysans, heureux de regagner leur village où le travail les attendait. Ah, ça fait du bien. C'est fini, compte à rebours. C'est fini pour aujourd'hui, bien sûr, puisque la semaine prochaine, on s'y remettra. On a apprécié aujourd'hui donc cette histoire de Bernard Clavel. Hein, voilà, ça fait du bien quand même de voir un exploiteur, on va dire, hein, pour employer des mots, qui est quand même puni. Voilà, ça fait rêver peut-être un peu. Qu'est-ce que je voulais dire bien? Les musiques, si, quand même, les musiques. C'était, là, en l'occurrence, Lisa Gérard et Jeff Rona, les musiques qu'on a eues. Et puis, au micro, c'était Marco, bien sûr. C'était l'émission Compte à rebours. Et c'était la radio CFM. Et je vous dis à la semaine prochaine, samedi. Ciao. Thank you.
Thank you.